Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle édition de Quartier Constituant. Quartier Constituant, vous le savez maintenant, vous connaissez notre emplacement. Nous sommes en plein dans le quartier général. Le quartier général qui est cette chaîne d'information, pas continue, mais une sacrée information en fait, une vraie information. Et avec des invités remarquables, enfin bref, vous connaissez maintenant, vous êtes des habitués. En tout cas, nous avons un nouveau rendez-vous et aujourd'hui, nous continuons notre exploration, notre enquête, nos investigations sur justement comment ce mouvement social sur les retraites en particulier, mais dont on a vu déjà qu'il touchait à beaucoup, beaucoup d'autres champs, d'autres pans de la revendication, d'autres pans du désir politique du peuple, eh bien, nous allons encore, cette fois-ci, avec de nouveaux invités, explorer ce champ-là et essayer de réfléchir en particulier à un point assez méconnu, souvent considéré comme trop technique, pas politique, alors que c'est vraisemblablement tout le contraire, c'est la question du droit et c'est la question de la justice. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a autour de cette table, je vais évidemment faire le tour de la table, nous avons invité Maître Mécari, Caroline Mécari.
Bonjour.
Bonjour. Qui est avocate au barreau de Paris et qui, bon, vous la connaissez, hein, mais on va quand même parler de tous ses accomplissements parce que Caroline Mécari est, est-ce qu'on pourrait dire avocate militante?
Moi, je dirais plutôt avocate engagée.
Avocate engagée.
Oui, voilà, c'est ça, exactement, engagée. C'est-à-dire que le droit est un outil au service des justiciables et évidemment, il a une dimension politique et voilà. Du coup, ça crée l'engagement.
Ben, c'est exactement ce que je voulais dire en parlant du droit comme cet outil qui n'est pas nécessairement un outil de pouvoir, on va dire, défavorable, mais qui peut, de temps en temps, être un outil de pouvoir favorable au grand nombre. Donc, on va justement essayer de décoder, en fait, ces pratiques-là. Donc, Maître Mécari, tu es avocate au barreau de Paris, tu as été co-présidente de la Fondation Copernic, et tu es également, pour encore quelques mois,
quelques semaines.
Oui. Ouais, voilà.
Jusqu'à la fin du mois de mars 2020.
Élu au conseil municipal de Paris. Voilà, bon, ça fait quand même un sacré bagage avec plein de points de vue possibles sur la réalité sociale. Donc, on va en parler ensemble. Tu es aussi l'auteur d'un Que sais-je sur PMA et GPA parce qu'on te connaît aussi comme une avocate des couples homoparentaux, on pourrait dire, où tu as été finalement engagée aussi pour faire valoir l'homoparentalité. Donc c'est ça aussi qui te caractérise et que nous voulons pas forcément explorer ici. Néanmoins, tu es quelqu'un qui a des partis pris tranchés et qui les fait valoir en tant que professionnelle et aussi en tant que citoyenne, comme tout un chacun. Bon, je vais aussi présenter les complices. Alors, Sacha Mokritsky. Bon, ça fait... t'es un habitué, hein, on va dire ça. Et tu es maintenant rédacteur en chef de Reconstruire, qui est une revue en ligne qu'on ne cite plus, car maintenant, tu fais partie du quartier constituant de manière très récurrente. Merci beaucoup d'être là et continuer aussi cette exploration. Vraiment, alors là, toujours pareil, hein, on pose des questions quand on veut, on intervient quand on veut, on est là pour ça et pour explorer. Et puis alors, mon compère... Voilà, François Coq, t'es toujours là, constituant, voilà, t'es avec ta casquette de constituant aujourd'hui, et tu vas nous aider à cuisiner Maître Mécari.
On va touiller tous ensemble, on va essayer de réfléchir un
petit peu, essayer de...
ce qu'il faut mettre en commun pour faire un peu société, et la justice va jouer bien sûr un rôle important là-dedans.
Et d'ailleurs, alors tu as dit la justice, mais justement, c'est ça qu'on va aussi essayer de mettre un peu subtil quand même, hein. C'est-à-dire faire le distinguo entre la justice, qui est un principe,
Et l'institution
et l'institution judiciaire, et le droit, qui est un outil. Bon, donc j'aimerais d'abord qu'on démarre sur la présentation du mouvement social au travers de la profession particulière des avocats, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose d'emblématique dans ce mouvement-là, et la prise en charge des revendications hostile à la réforme par cette profession-là, qui dit bien un certain nombre de choses, en particulier qui parle du métier, qui parle du rôle social de cette profession et qui finalement explique que la paupérisation qui résulterait de cette réforme des retraites créerait une espèce de déséquilibre total et priverait finalement, y compris les citoyens, de ce recours, de cet accès au droit que les avocats constituent, permettent. Voilà. Qu'est-ce que, comment tu pourrais présenter, en fait
Alors, pour présenter le plus simplement possible la situation, c'est qu'au départ, la réforme des retraites, elle impacte absolument tout le monde, c'est-à-dire aussi bien les salariés que les fonctionnaires, que les professions libérales. Pour ce qui est des avocats, la particularité, c'est que les avocats sont donc une profession libérale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'employeur. C'est-à-dire qu'ils génèrent eux-mêmes leur propre travail en assurant la défense des justiciables devant les juridictions et de plein d'autres manières, puisque les avocats font aussi du conseil. Les avocats ont depuis 70 ans une caisse de retraite autonome, c'est-à-dire une caisse de retraite qu'ils sont les seuls à financer. Comme ils ont bien géré et qu'en plus nous aimons notre métier, eh bien cette caisse de retraite a des réserves de 2 milliards d'euros qui permettent de servir les pensions pour les avocats jusqu'en 2080. Et puis nous sommes solidaires, c'est-à-dire que nous reversons chaque année plus de 100 millions d'euros à la caisse de retraite générale pour venir combler les déficits des autres caisses de retraite. Bien, ça c'est la base. La réforme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, pour les avocats qui gagnent moins de 40 000 euros par an, c'est-à-dire 35 000 avocats sur les 70 000 avocats, eh bien pour ces avocats, leur cotisation retraite va doubler. C'est un petit peu comme si, lorsque vous êtes salarié ou lorsque vous êtes fonctionnaire, votre cotisation retraite, vous en prenez 40% à votre charge en tant que salarié ou fonctionnaire, votre employeur en prend 60%. Eh bien, c'est comme si dans la réforme, l'État vous disait « Ah ben non, maintenant c'est fini, l'employeur, il prend plus les 60%, c'est tout pour votre pomme. » C'est tout pour votre pomme. Donc, ce doublement des cotisations impacte les petits cabinets. Et les petits cabinets, ce sont les cabinets qui maillent tout le territoire et qui viennent, qui assurent la défense des gens les plus pauvres, les plus précaires, ceux qui sont à l'aide juridictionnelle. Pardon de le dire aussi crûment, mais il faut le dire, c'est des gens vraiment qui sont très modestes. Et là, l'indemnisation au titre de l'aide juridictionnelle, elle est très faible. Et donc, elle rémunère les avocats de manière faible. Si leur cotisation double, c'est-à-dire passe de 3 500 euros par an à 7 000 euros par an, il y a à peu près un tiers de ces avocats qui vont disparaître. Donc on va voir disparaître à peu près 25 000 avocats. Très bien. Ceux qui font l'aide juridictionnelle.
Précisément ceux qui s'occupent des personnes les plus démunies.
Et en ce sens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les plus démunis ne peuvent pas trouver d'avocat pour saisir l'institution judiciaire, ils n'ont pas accès à l'institution judiciaire. Mais au-delà de la réforme des retraites, ce que ça révèle aussi, c'est, et ce que ça fait ressurgir, c'est comment le monde judiciaire, comment l'institution judiciaire est dans une voie de paupérisation à un point que vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire que le budget de la justice aujourd'hui en France, c'est 7 milliards d'euros. Le budget de la France, c'est 2100 milliards.
C'est un pourcentage ridicule.
Oh, mais bien sûr, c'est moins d'un pourcent. Ouais. Très bien, ça veut dire qu'en France, chaque habitant paye 72 euros pour la justice. En Allemagne, c'est le double. Ouais. En France, on a 10 juges pour 100 000 habitants. En France, le nombre de magistrats, c'est-à-dire ceux qui jugent, théoriquement, c'est 8 600 magistrats, c'est-à-dire exactement le même nombre qu'au début du 20e siècle, c'est-à-dire dans les années 1920, il y avait le même nombre de magistrats.
La
population a plus que triplé. Et depuis maintenant 15 ans, et pour être très précise, je pense que le tournant, ça a été la RGPP mise en place, c'est-à-dire la réduction générale
des politiques
fonctionnement
publiques.
Des politiques publiques. Ouais. Donc, Sarkozy, 2007. Depuis 2007, c'est-à-dire maintenant pratiquement 13 ans et bientôt 15, les magistrats qui jugent les justiciables sont soumis à des impératifs gestionnaires. Il ne s'agit plus de savoir si on a résolu le cas de Madame Machin et Monsieur Truc, il s'agit de savoir combien de bâtons on met, un dossier, deux dossiers, trois dossiers, combien on a de jugements, un jugement, deux jugements, trois jugements, quatre jugements. On ne s'occupe plus des gens, c'est comme pour l'hôpital.
Avec une visée qui est augmenter la productivité,
alors,
etc.
Je ne dirais pas que la visée, c'est d'augmenter la productivité. Je dirais que la visée, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de gens qui saisissent l'institution judiciaire. C'est pour ça que dans les réformes qui nous ont été imposées, qui sont des réformes notamment, soi-disant, de la justice en 2016, puis de la procédure civile, là, depuis le 1er janvier 2020, il y a un mouvement qui a pour objet de déjudiciariser les conflits et donc d'essayer de renvoyer les problématiques que les gens peuvent avoir entre eux à des processus de médiation ou de conciliation sans pour autant donner les moyens à la médiation ou à la conciliation d'intervenir. C'est-à-dire, ça, c'est plus financé par les pouvoirs publics. C'est le justiciable qui doit payer un médiateur, qui doit payer un conciliateur.
C'est comme si on payait son juge.
Enfin, c'est pas tout à fait un juge, c'est du même ordre.
Mais
voilà.
ça
revient à ça. De même que la
justice me sera rendue à condition que j'en ai les moyens.
Absolument, exactement.
Et encore.
Et encore. Donc, on est vraiment dans un... Et si la profession d'avocat, c'est-à-dire la totalité des barreaux aujourd'hui est en grève, c'est du jamais vu. Hein.
Non.
Il faut être très clair, c'est du jamais vu en plus d'un siècle, enfin même depuis d'ailleurs le début qu'existent les ordres d'avocats sous Napoléon Ier, ça ne s'est jamais vu.
Et tous les syndicats d'avocats.
À tous les syndicats.
Qu'ils soient de droite, de gauche,
etc. Y compris les avocats du barreau d'affaires, parce qu'eux sont impactés d'une autre manière, mais ils le sont certes pas de la même façon, ils ont la possibilité de compenser compte tenu de leurs revenus.
Mais c'est ce que je me demandais, est-ce que les arguments des avocats, on va dire aisés, sont les mêmes que les
arguments des
avocats?
C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas impactés de la même manière. Ouais. Dans la réforme, il est prévu qu'à partir de 120 000 euros de revenus par an, la cotisation qui est versée à l'État, de à peu près 2,8% si je ne me trompe pas, ou 3,8%, c'est une cotisation générale, ok, très bien, et elle ne donne pas lieu à une contrepartie.
Oui. C'est 2,8%.
Voilà, c'est 2,8%. Il ne donne pas lieu à une contrepartie. C'est la même chose pour les salariés.
C'est-à-dire qu'ils n'acquièrent pas de points.
Ils n'acquièrent pas de points, c'est exactement ça. Mais quand vous gagnez plus de 120 000 euros par an, ça veut dire que vous avez plus de 10 000 euros par mois net après impôt. Donc, vous avez 3%, ça ne pèse pas très lourd. Mais en revanche, quand vous gagnez moins de 40 000 euros par an et qu'on vous prend et que votre cotisation passe du simple au double, c'est-à-dire qu'elle passe de 14% à 28%, ça pèse énormément. Donc en réalité, cette réforme qui apparemment dit « je suis pour la justice, l'égalité, etc. »
L'universalité,
c'est faux. C'est une manière d'utiliser le terme « universel » qui en réalité masque une inégalité. Il faut rappeler un principe de droit qui est extrêmement important, qui est le principe d'égalité de traitement. Le principe d'égalité de traitement, ça ne veut pas dire qu'on met tout le monde dans le même sac. Ce n'est pas possible. Le principe d'égalité de traitement, ça veut dire qu'à situation de fait similaire, traitement juridique similaire, mais à situation de fait différente, traitement juridique différent. Donc, si je reprends la situation des salariés, des fonctionnaires et la situation des professions libérales, ce sont des situations de fait différentes. Parce que salariés et fonctionnaires ont des employeurs qui prennent en charge 60% de leur cotisation retraite. Les professions libérales n'ont pas d'employeur. Personne ne prend en charge, aucun employeur ne prend en charge leur cotisation retraite. Donc ils ne sont pas dans la même situation. Et donc ça justifie un régime qui puisse être différent. Et là, c'est la vraie égalité. Là, c'est la vraie égalité. Parce qu'il faut regarder comment ça fonctionne. C'est la même chose quand on dit tout le monde doit prendre sa retraite à 64 ans. Mais celui qui a commencé à travailler à 16 ans, qui a commencé à travailler dans un travail manuel, qui restait toute sa vie dans un travail manuel, il n'est pas dans le même état de santé que le col blanc, qui a commencé à travailler à 25 ans, qui a toujours été assis derrière un bureau et qui n'a pas fait les efforts physiques que peut faire un travailleur manuel. Et donc 64 ans, c'est pas... Certes, 64 ans, ça a l'air d'être pareil, mais c'est pas pareil. On n'arrive pas dans le même état de santé. 64 ans, c'est l'âge auquel on est en bonne santé. Voilà. Après, on ne sait pas. Et après, il y a des écarts considérables entre les professions SPP+, et les professions, on va dire, manuelles. Il y a quasiment 13 ans de différence
d'espérance de vie
entre l'ouvrier et le cadre.
Ouais.
Donc, il n'y a pas d'égalité, là.
Ouais.
Et la loi, elle est là, justement, pour compenser les inégalités de fait. La loi, elle est là pour civiliser les rapports entre les citoyens. Or, ce que propose le président Macron et son gouvernement, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, en réalité, c'est une forme de communisme mal compris.
Cette question de l'universalité, depuis le début, c'est un piège. Le mot lui-même a été utilisé comme un piège par Macron, parce qu'à l'universalité des droits qui devraient être le socle de l'existant, il oppose un universalisme de lissage.
Absolument. Exactement. Et en plus, quand il vous dit un euro cotisé va faire un euro de retraite, voilà, très bien. C'est bien. Donc, en effet, ça veut dire que si votre rémunération, c'est 500 euros, donc votre retraite, ça sera de 500 euros. Si vous gagnez 10 000 euros, ça sera 10 000 euros. Mais il faut compenser ces inégalités. Si on ne les compense pas, en réalité, on fracture la société.
Et puis on les perpétue.
On crée des fractures.
Mais c'est surtout qu'on les perpétue. Tu disais université de lissage, mais en réalité, tu ne fais que perpétuer,
on les aggrave.
Et c'est là que ce que tu expliques là, c'est que En plus, ce seront les avocats les moins fortunés.
Absolument, qui paieront le plus. Absolument.
Donc,
je vais dans les seuils, soyons clairs. Les 40 000, ceux qui gagnent 40 000 euros, leur cotisation, c'est 28 %. Ensuite, si vous gagnez entre 40 et 80 000, là, sur cette tranche-là, c'est 12 %. Et si vous gagnez de 80 000 à 120 000, votre tranche, ça sera du 3 %. Et au-delà, c'est le 2,8 sans contrepartie. Mais vous avez la possibilité de souscrire à des assurances privées. On voit très bien pourquoi c'est fait. On voit très bien comment, en réalité, le président Macron, son gouvernement, sont sur des choix de politique vraiment néolibéraux. Pas de solidarité, c'est le chacun pour soi. Qui incite à la capitalisation et surtout pas de solidarité. Et c'est peut-être qu'au fond, ce contre quoi les avocats se battent, certes, pour un certain nombre d'entre eux, pour eux-mêmes, et c'est normal parce qu'il y a une vraie question de survie, mais c'est aussi pour une certaine idée d'une société où on doit avoir un système qui permette de compenser les inégalités de départ. Personne n'a choisi de naître dans telle ville, dans telle famille, qu'elle soit riche, pauvre, avantagée, pas avantagée. Mais ensuite, il appartient à la société d'essayer de compenser ces inégalités de
départ. C'est bien la différence qu'on fait. D'ailleurs, quand on est juriste, on connaît bien ce problème. C'est l'égalité en droit et l'égalité en fait.
Absolument.
C'est deux choses complètement différentes.
Il n'y en a
pas,
en fait. En fait, il n'y en a pas. C'est impossible. Donc là, on n'a pas de pouvoir par rapport à ça. Mais on peut regarder ce que sont les inégalités en fait et par la loi, c'est-à-dire par un choix politique. Il faut quand même rappeler ce que c'est que la loi. La loi, c'est une délibération du corps social à un moment donné. La délibération du corps social, elle intervient comment ? Elle intervient, par exemple, si on prend la réforme des retraites ou n'importe quelle réforme, il y a des débats dans la société, etc., etc. C'est repris ensuite par les partis politiques et ensuite, ce sont les parlementaires, c'est-à-dire ceux que nous avons élus au travers des élections, qui vont appliquer telle orientation politique et qui vont faire de ce qui était au départ une idée, un projet, une règle de droit qui va s'imposer à tout le monde. Mais c'est donc le droit est politique. Il est toujours politique, que ce soit le droit fiscal, le droit pénal, le droit civil. Tous les droits sont politiques, puisqu'ils sont le fruit d'options.
Mais donc justement, ça veut dire que puisque le droit est politique, nous devons nous en ressaisir. Et tu as analysé comment le gouvernement Macron est en train de faire disparaître le principe de solidarité. Oui. Mais il est en train de le faire disparaître parce que nous n'osons pas, moi je trouve, d'une certaine façon, nous ressaisir de la grande question qui est derrière. Ouais. La réforme qui est à l'œuvre aujourd'hui nous fait passer sur une définition purement contributive. C'est ça qui est à la base.
Absolument.
Et on n'ose pas, d'une certaine façon, aller plus loin en se disant, est-ce que ce n'est pas les prestations qui doivent être définies au départ ? Est-ce que ce n'est pas ça qui doit être l'architecture, qui devrait être l'architecture de la réforme ?
L'objectif, le résultat qu'on veut atteindre.
Qu'est-ce qu'on veut pour notre société ? Qu'est-ce qu'on veut ? Voilà. Comment on veut fonctionner ? Comment on veut répartir ensuite les choses ? Et quel est le mérite de chacun pour ensuite refaire société et pouvoir continuer à vivre ensemble ? Et d'une certaine façon, ça, on pourrait le poser comme une vraie question d'enjeu, comme un vrai enjeu politique. Et on n'ose pas trop le faire parce qu'on est uniquement sur la défensive, en étant en train de se bagarrer pied à pied contre chacun des arguments qui est dans cette réforme sur l'aspect contributif. Donc moi, je crois qu'il faut reprendre le fil politique sur cette question des retraites. De toute façon, il faudra le faire parce que si cette réforme va au bout, il faudra bien la détricoter. Il faut aussi qu'on se le dise aujourd'hui.
Alors, je vais vous dire un truc. Enfin bon, deux choses. D'abord, il existe des contre-projets. Par exemple, la Fondation Copernic et Attac ont proposé un contre-projet. Toute la difficulté de ces contre-projets portés par la société civile, on peut dire ça comme ça, c'est qu'elles n'ont pas de débouchés politiques. C'est ça la vraie difficulté. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, sauf erreur de ma part, lorsque une réforme est enclenchée, a été adoptée, personne ne la détricote jamais. Il y a un effet cliquet. C'est-à-dire que...
On ne peut jamais revenir complètement.
C'est pas qu'on ne puisse pas revenir. Théoriquement, c'est parfaitement possible. On peut tout à fait revenir sur un texte qui a été voté, une réforme qui a été mise en place, oui. Mais en réalité, ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire ceux que nous avons choisis à un moment ou à un autre, plus ou moins d'ailleurs en réalité, mais bon, dans des choix parfois contraints et forcés, eh bien, même ceux que nous n'avons pas choisis qui leur succèdent, finalement, ça leur convient très bien. Admettons que demain...
Mais parce qu'ils ont une convergence d'intérêts depuis des années.
C'est la fameuse alternance.
Mais bien sûr, mais sauf que...
Ce n'est pas une alternative.
Non, ce n'est pas une alternative, mais... La difficulté, c'est donc comment est-ce que politiquement on fait pour avoir un poids politique ? C'est ça la question aujourd'hui.
C'est la question de l'exercice du pouvoir, alors, si je comprends bien.
Non, c'est pas la question de l'exercice du pouvoir.
C'est pas la question de comment on se saisit du pouvoir.
Oui, d'accord, de cette façon-là. Mais donc,
je ne parle pas de méthode.
Concrètement, comment est-ce qu'on arrive à convaincre nos concitoyens que le projet politique que l'on peut porter d'une solidarité, d'une lutte contre les inégalités, d'une meilleure répartition de la production, de la richesse, non pas tout le temps au bénéfice du capital, mais aussi au bénéfice de ceux qui travaillent. Comment on fait pour augmenter les salaires? Pourquoi est-ce que les patrons... Non, mais c'est quand même extraordinaire, là. Vous avez le MEDEF qui, aujourd'hui, vient dire qu'il faudrait accorder 12 jours de congé aux parents qui viennent de perdre leurs enfants, alors que le gouvernement, enfin, alors que les députés de la République en mange, on dit non, on laisse 5 jours. Ouais, c'est le MEDEF qui en vient à dire ça. Et dans le même temps, le MEDEF est là depuis 30 ans à quémander, plus que quémander, à essayer d'imposer des diminutions de cotisations sociales sur les cotisations qu'ils ont à payer. Ils sont là à dire ah non, vous vous rendez pas compte, si on augmente le SMIC, ça va ruiner le pays. Et en même temps, 60 milliards de dividendes ont été distribués par les entreprises du CAC 40 en 2019.
Mais nous n'avons pas juste en convaincre les gens. Voilà. Aujourd'hui, nous nous en sommes rendus, à mon sens, dans les systèmes dits démocratiques aujourd'hui, dans lesquels nous vivons les uns et les autres. Nous ne pouvons pas même juste en être convaincus par le fait majoritaire. Ça ne suffira pas à changer les choses. Pour bousculer, pour changer les règles du jeu, il ne suffit pas d'en être convaincu. La politique d'Emmanuel Macron en est la preuve. Il repose sur un socle minoritaire. Minoritaire au premier tour, et même, d'une certaine façon, il a vocation à être minoritaire institutionnellement. Parce qu'il est préservé par le cadre institutionnel qui lui permet de continuer à faire aller. Donc la question, elle n'est pas simplement une question de conviction du grand nombre. Elle partit de la conviction du grand nombre, mais je crois qu'on a déjà beaucoup avancé sur cette question-là. À mon sens, la question qui est de plus en plus centrale aujourd'hui, c'est comment on reprend les rênes de notre souveraineté. Comment la souveraineté populaire aujourd'hui revient, et on revient à la question derrière du droit, dès lors qu'on considère que la loi est l'expression de la volonté générale. Bon, on va pas reprendre, refaire le fil là. Donc voilà, je crois qu'il y a cette question-là. Moi, j'avais une question quand même pour toi, si tu permets, Charlotte. Je m'interroge parce que le mouvement des avocats, dans ce mouvement populaire que nous connaissons actuellement, est extrêmement prégnant. A une force symbolique extrêmement puissante.
Il y a quelque chose d'exemplaire.
Ouais. Et d'ailleurs, le fait de les jeter de robes ont derrière entraîné beaucoup d'autres exemples de la sorte. Et ce sont des gestes forts, parce que les gens ils se dévêtissent de ce qu'ils sont en réalité.
Oui, parce que nous aimons notre métier, nous aimons notre robe, souvent presque plus que tout. Donc le fait de la jeter, c'est vraiment une manière de dire à nos interlocuteurs, là en l'occurrence c'était la ministre de la Justice, mais vous nous méprisez, mais vous allez jusqu'à piétiner notre outil de travail en fait. La robe étant effectivement un outil de travail, puisque lorsque nous plaidons, nous sommes en robe.
En 1789, moi j'ai souvenir qu'au moment des cahiers de doléances, si on regarde dans l'ordre dans lequel les choses ont été faites, la première revendication, c'était la lutte contre les injustices devant l'impôt, et la deuxième revendication à l'époque, c'était la lutte contre les injustices, justement, devant la justice et face à la justice. Et à l'époque, les premiers révolutionnaires de 1789, dans le grand nombre, étaient les avocats. Robespierre, Danton, Camille, mais aussi Pétion, Brissot, Barnave. Enfin bon, voilà, la liste serait très longue.
C'est des professionnels.
Et d'une certaine façon, les avocats, être la pointe avancée de ce mouvement-là, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui sur notre société?
Mais ça dit qu'on est arrivé à un degré de délitement et de déstructuration de ce qui fait le lien entre tous les citoyens. C'est-à-dire que pour qu'une profession, comme la profession d'avocat, qui est plutôt perçue comme une profession de nantis, en vienne à être ultra mobilisée, y compris en utilisant les images et la parole, nous ne sommes pas violents. Nous ne sommes pas violents, en ce sens que, enfin, notre violence, elle s'exprime par le verbe, elle s'exprime par les jetés de robes, par des codes civils périmés qui sont brûlés, n'en déplaise à des vieux barbons, y compris d'avocats qui considèrent que ce serait une honte. Non, ce qui est une honte, c'est que, en réalité, une réforme qui est censée améliorer la situation de ce que nous serons quand nous serons vieux, aboutit, pour la profession d'avocat, mais pour tout le monde, à paupériser les vieux, pour être très clair, et pire encore, à paupériser le fonctionnement des cabinets d'avocats, c'est-à-dire de ceux qui permettent aux plus modestes d'avoir accès à la justice. Et donc ça, c'est pour nous, c'est inacceptable. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je disais tout à l'heure que ça fait 15 ans que le monde judiciaire est placé, du point de vue des magistrats, pour les magistrats, sous l'emprise de la RGPP, mais qui a changé de nom, bien sûr, peu importe. C'est-à-dire, une vision comptable et gestionnaire de la justice, c'est pas du tout le même, mais ça a des conséquences en permanence. Exemple, si je veux saisir le juge aux affaires familiales du TGI de Nantes, je dépose ma requête aujourd'hui, elle ne sera pas audiencée avant entre 9 mois à 1 an. Vous vous rendez compte? Donc pendant 9 mois à 1 an, il va falloir que j'explique à ma cliente ou à mon client qu'on ne peut pas passer devant le juge, qu'on ne sait pas comment ça va se passer, etc. Si je suis dans un cas d'urgence, normalement, en 48 heures, je dois pouvoir assigner la partie adverse dans le cadre de ce qu'on appelle un référé d'heure à heure. Hein. Je n'aurai pas d'audience avant un mois. Mais c'est immense. Et pourquoi? Il n'y a pas assez de juges, il n'y a pas assez de greffiers. Donc tout le monde le paye. Et nous, avocats, on est obligé de faire le tampon avec le justiciable. C'est-à-dire, on est obligé d'expliquer au justiciable, alors maître, pourquoi j'ai pas de nouvelles de mon dossier? Ben désolé, mais vous savez, le budget de la justice en France, c'est rikiki, il n'y a pas assez de juges, pas assez de greffiers. Il y a des dossiers, ils n'ont que 24 heures dans leur vie pour traiter les choses, et voilà.
Alors moi, j'ai une question quand même sur ce qui... Alors, on ne peut pas dire que la réforme des retraites vise expressément les avocats. Elle vise tout le monde. Hein. Tout le monde est victime.
45 millions de travailleurs, voilà, voilà. Salariés,
mais
fonctionnaires.
Pour autant, au regard des effets que produit cette, que produira, si elle, est, elle passe, cette réforme sur cette profession-là, je me demandais, mais qu'est-ce qui est visé au travers de votre profession-là? Qu'est-ce qui est visé?
En tout cas, j'en suis arrivée voilà. À la conclusion qu'il y avait une volonté d'éliminer un tiers de la profession, ce tiers qui est le plus modeste, on va dire, qui soi-disant ne saurait pas s'adapter au monde d'aujourd'hui, ce qui est parfaitement faux, surtout que ce sont des gens qui, les gens qui veulent nous imposer ça, les Édouard Philippe, les Emmanuel Macron et consorts, sont des gens qui n'ont pas fait le quart de la moitié de ce que le plus petit avocat de France a fait, c'est-à-dire prendre le risque d'exercer en indépendant, investir son argent dans son cabinet, accepter de travailler 60 heures par semaine pour des rémunérations parfois qui sont très très modestes, ne pas avoir de couverture sociale lorsque l'on est malade. La sécurité sociale ne nous verse pas d'indemnité lorsque nous sommes malades. De même que si nous n'avons pas de travail, nous n'avons pas d'indemnité chômage. De même que lorsque nous prenons nos vacances, personne ne nous les paye, nous n'avons pas de congés payés. Donc ces gens-là ne connaissent rien du marché libéral que nous connaissons par cœur. Et pourtant, ce qui qu'ils veulent, comme l'avait d'ailleurs dit Bruno Le Maire lors d'une émission où il a été interviewé sur France Inter, en disant « oui, mais il y a des professions qui sont vouées à disparaître ». Oui, en effet, il y a une volonté de faire disparaître les avocats des pauvres. C'est cela, pour être très très clair. Pourquoi? Parce que si la réforme, elle touche tout le monde, c'est vrai, mais c'est au moment de la retraite. Là, pour les avocats spécifiquement, la cotisation, elle double du jour au lendemain, ce qui est les seules professions libérales qui sont dans cette situation-là. C'est tout. Les autres, les salariés, les fonctionnaires, ils ne vont pas voir leur cotisation doublée, donc ils ne vont pas voir une baisse de leur pouvoir d'achat, etc. Nous, oui, c'est ce qui nous arrive. Et le dessein, vraisemblablement, c'est la disparition des avocats qui défendent les plus modestes. De toute façon, c'est simple. Est-ce que dans son livre Révolution, est-ce que Emmanuel Macron parle des ouvriers, des employés, des petits travailleurs? Rien. Même pas, il n'y a même pas une page. Donc, pour lui, ces gens-là, les riens, ceux qui vivent dans les gares, on croit, n'existent pas. Exactement.
Et donc, sont voués à disparaître. Enfin, même s'ils existaient, ils seraient voués à disparaître. Mais c'est voilà. Encore pire.
Oui.
Mais donc, ça me fait faire un parallèle, en fait, entre donc, cette profession vouée à disparaître, je parle de la profession des petits.
Des petits, oui, hein, liés aux petits. De ceux qui aident les plus faibles.
Et qui, du coup, représentent aussi quelque chose comme une fonction sociale particulière,
absolument.
Qui est une fonction appuyée sur la solidarité, dont la logique est en fait quelque chose de l'ordre de la solidarité
absolument,
sociale.
Vous avez...
Et en fait, la question l'outil ou le principe qui, d'ailleurs, enrobe, si je puis dire, la profession d'avocat, c'est les fameux droits de la défense. Et que finalement, c'est ça que vous portez. Et que, du coup, ce qui disparaît en faisant disparaître cette profession liée aux petites gens, c'est finalement la capacité ou la fonction sociale qui consiste à protéger les petites gens. C'est-à-dire la question de la protection sociale qui réside au sein de la profession d'avocat, eh ben, elle passe à la trappe. Elle passe à la trappe. Et ça, on le trouve aussi, finalement, dans la case des services publics, etc. C'est du même ordre. C'est-à-dire c'est la même logique. C'est-à-dire qu'il y a une attaque, vraiment là, tous azimuts, et qui va toucher, y compris, des professions qui, pourtant, sont statutairement libérales, donc qui relèvent du secteur privé, mais qui, en réalité, agissent socialement comme une fonction publique, j'allais dire.
Vous avez raison, d'ailleurs, c'est pour cela que normalement nous avons un autre titre qui est que nous sommes des auxiliaires de justice.
C'est ça.
Les auxiliaires de justice sont ceux qui participent entre guillemets à l'œuvre de justice, c'est-à-dire à l'obtention d'une décision judiciaire. Mais c'est important que vous souligniez le travail de l'avocat de proximité, de ce maillage, que ce soit dans les banlieues qui sont, où il y a une espèce où il y a une accumulation de toutes les difficultés parce qu'il y a beaucoup moins de services publics. L'école est dans un état pitoyable, l'hôpital aussi, il n'y a plus assez de policiers. Et dans ces territoires, qui sont en quelque sorte des territoires oubliés de la République, ou en tout cas de ces gens comme le président Macron et ceux qui le soutiennent, les avocats ont un rôle social. Ils ont un rôle d'amortisseur aussi. Ils sont capables de prendre en charge une partie
des intérêts.
Des intérêts de gens qui sont très modestes. C'est de transmettre cette parole à l'institution qui pourra en faire quelque chose et qui désamorcera en fait ce qui potentiellement peut être explosif, pour être très pour être simple en fait. Ça participe absolument de ça.
C'est comme les travailleurs sociaux.
Il y a pour en tout cas, non, il y a c'est vrai, si vous parlez, c'est pour les avocats de proximité, ouais. Que ce soit dans les campagnes, dans les petites villes, dans les banlieues, c'est pareil, il y a un travail d'amortisseur social. Donc bon, ça me dérange pas du tout, vous disiez comme les travailleurs sociaux et c'est un beau métier, travailleur social, je veux dire
qui a vocation à disparaître dans le monde néolibéral.
Enfin, il a pas vocation, oui, il a vocation.
Non, mais dans le monde
oui, voilà. Il y a un choix politique, c'est un choix politique contre lequel il faut se battre, ouais. C'est-à-dire que ce que ne comprend pas un Macron, c'est que, mais bon, après c'est des perspectives, c'est que moi j'ai la conviction chevillée au corps qu'une société ne peut fonctionner que si chacun y trouve à peu près sa place. Et y trouver à peu près sa place, ça veut dire qu'on partage mieux en quelque sorte le gâteau, tout simplement. Et que ça, c'est un facteur d'apaisement, c'est un facteur de bien-être. Or, les choix qui sont faits aujourd'hui sont des choix de fracturation, certes. Aujourd'hui, on a un gouvernement et un président qui ne tient que parce qu'il y a des forces de l'ordre. C'est très clair. Aujourd'hui, il est incroyable de voir que le président ne peut pas se déplacer sans être accompagné d'une foultitude de forces de l'ordre. Que lorsqu'il y a le moindre événement où il doit être présent, le quartier est bouclé, pour ne pas dire la ville. Ça veut dire que c'est un homme qui est coupé des gens. Il est coupé des citoyens. Je veux dire, c'est le premier à être coupé des citoyens. Et pourtant, François Hollande suscitait de la colère, mais jamais il n'a été coupé des citoyens comme ça. Jamais. Vraiment jamais.
Et de la même manière, c'est un exécutif qui ne peut pas faire passer de texte sans qu'il y ait des manifestations importantes
y a deux choses.
Et une répression ultra-violente.
Oui, il y a trois choses. Il y a dans la rue, alors il y a des manifestations qui sont de plus en plus importantes et qui... dont les formes d'ailleurs se diversifient. Ça, c'est assez intéressant de voir notamment, par exemple, les retraites au flambeau, etc.
Oui.
Il y a ça. Il y a une répression qui n'a jamais existé, à un point qui fait qu'aujourd'hui, je n'hésite pas à dire qu'en France, nous sommes dans un état policier. Et en disant cela, je ne fais que reprendre l'expression de mon confrère François Sureau, dont on ne peut pas dire qu'il était un gauchiste, très clairement, puisque c'est l'avocat qui a participé à la rédaction des statuts d'En Marche. François Sureau pose un diagnostic très juste, c'est-à-dire que nous sommes dans une dérive autoritaire de l'État. Et troisièmement, sur le plan institutionnel, ce dont nous n'avons pas parlé, c'est que les deux projets de loi sur la réforme des retraites, il y a un projet de loi ordinaire et un projet de loi organique. Eh bien, il est prévu que le détail des dispositions sur la réforme des retraites soit déterminé par ordonnance. 29 ordonnances, ce qui est considérable. Les ordonnances, c'est
annoncé
quoi ?
Dès le 11 décembre.
Oui.
Quand le Premier ministre a fait sa conférence de presse le 11 décembre, après les premières journées de mobilisation, il dit déjà qu'il y aura un recours aux ordonnances. Et cette question-là est passée finalement une lettre à la poste.
Et heureusement que le Conseil d'État l'a rappelé.
Voilà. Il faudra revenir sur la place du Conseil d'État, parce que quand même que ce soit l'ordre administratif qui aujourd'hui devienne le principal opposant, parce que les autres oppositions ont été
les autres
arrasées,
contre-pouvoirs.
Il va falloir revenir quand même dessus.
Voilà. Légiférer par ordonnance, ça veut dire quoi ? C'est en fait les fonctionnaires de l'exécutif qui rédigent les textes et qui ensuite seront validés par l'Assemblée et par le Sénat. et le, l'Assemblée étant majoritairement La République En Marche, ce sera validé sans même qu'il y ait une discussion sur le contenu des ordonnances. Ça, c'est
une ratification.
Voilà, c'est une ratification, voire peut-être même l'utilisation du 49.3. Là, ça va encore plus vite. Bon, on verra bien. Mais en tout cas, c'est tout sauf démocratique.
Vous avez évoqué par la Constitution de la Ve République, comme
c'est
par
vrai,
hasard.
C'est vrai, c'est vrai. Et vous avez évoqué l'avis du Conseil d'État qui étrille. Mais qui étrille à proprement le projet de loi. D'ailleurs, le Conseil d'État aurait dû aller jusqu'au bout de la logique en disant ce projet de loi n'est ni fait ni à faire, vous devez le revoir, vos projections, elles ne sont ni faites ni à faire, l'étude d'impact, elle est totalement insuffisante, vos profils sont absolument fantaisistes, vous parlez d'un type qui commence sa carrière à 1300 euros, il va la terminer à 8500 euros, vous en connaissez beaucoup, vous, des salariés qui commencent à 1300 euros, et, ouais, enfin, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est l'exception, ce n'est pas la majorité, on va être très très clair. Donc, c'est quelque chose qui est fondé uniquement sur de la fabrication de fausses informations, très clairement.
Avec y compris les problèmes de constitutionnalité.
Bien sûr, et effectivement. Donc, alors là, pour le coup, les avocats s'empareront. Alors ça, vous pouvez en être absolument certain. Et en effet, là, pour le coup, on peut poser la question du fonctionnement de la Ve République et de comment aujourd'hui on arrive, elle est à bout de souffle en réalité, on arrive vraiment à un point de butée de son fonctionnement. C'est évident qu'il convient de changer de constitution et de rééquilibrer les pouvoirs entre aujourd'hui un pouvoir présidentiel qui est quasi absolu. Lorsque Macron dit en dictature, la dictature c'est quoi? C'est un homme seul qui gouverne avec un petit groupe.
Mais il vient de se décrire lui-même.
J'ai été frappée, moi. Enfin, pour moi, tout de suite, c'est miroir. Tu lui tends un miroir et c'est de lui dont il parle. Et après, il va vous dire, mais non, on n'est pas en dictature parce que j'ai été élu, blablabla, blablabla. Mais il a le problème aujourd'hui du président Macron, c'est qu'il est à la fois le garant des institutions, mais en même temps, c'est le chef d'une majorité. Donc, il ne peut pas être garant des institutions, il est partie prenante. Il est de parti pris, ça ne peut pas fonctionner. C'est juste impossible. Donc il est indispensable de repenser le fonctionnement institutionnel pour redonner un peu de souffle d'abord aux parlementaires, c'est-à-dire vraiment aux représentants du peuple, ne serait-ce que ça, mais aussi en redonnant du pouvoir aux autres contre-pouvoirs. Il n'y en a plus.
Et puis Emmanuel Macron, en fait, a bien compris que s'il devait être élu en 2022, s'il voulait continuer son œuvre et s'il voulait aller jusqu'au bout de son œuvre, il doit faire passer cette réforme des retraites. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, met en place tous les leviers pour faire passer cette réforme, parce qu'il n'existe plus que par le petit bloc bourgeois qu'il défend et contre toute la population. Et c'est pour ça qu'on rentre dans ces dérives autoritaires, que ce soit dans les institutions, que ce soit dans la rue avec les forces de l'ordre qui ont atteint un niveau de violence jamais vu, c'est que Emmanuel Macron n'a plus d'autre choix que d'avancer et que d'y aller au bulldozer, parce qu'il n'existe plus que par ça. Et c'est pour ça qu'il fait disparaître, par toutes ces lois, par toutes ces réformes, la totalité du peuple, en fait, qui aujourd'hui le haït. Et tu le disais très bien tout à l'heure, il ne peut plus se déplacer sans avoir une action coup de poing, sans avoir des cartes de CRS pour le protéger. Et il n'existe plus comme président du peuple, il n'existe plus que comme le président d'une petite minorité qui a permis son élection. Et s'il veut être élu, et je pense que c'est un lecteur de Machiavel, parce qu'on est exactement dans la discipline du pouvoir selon Machiavel, qui est celle du maintien, et que le pouvoir n'existe que par son maintien, Emmanuel Macron veut se maintenir, et pour cela il doit faire passer sa loi, quitte à se couper complètement du peuple. Et l'entrée des avocats et l'entrée de certaines professions intermédiaires qui ont été plutôt favorables à Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, on se rappelle de la de ce millier d'avocats dans Libération, je crois, ou je ne sais plus quel média, a voté pour Emmanuel Macron. L'entrée des avocats, ça veut bien dire quelque chose, c'est que même ses premiers soutiens, même ce bloc-là, commence à se déliter. Et Emmanuel Macron se fait aussi dépasser par sa gauche, par le MEDEF, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Hier, donc, sur cette question du congé, sur le décès, mais aussi sur la question des retraites, parce que le MEDEF a demandé le retrait de je ne sais plus quel parti, mais
le maintien en fait de la retraite par répartition pour les revenus au-delà de 120 000 euros par an.
Donc ceux qui devaient justement ne pas pouvoir en profiter.
Oui, également par le MEDEF.
Mais voilà, donc ça c'est extraordinaire quand même. Enfin bon, ça moi je pense que c'est plutôt un... Enfin c'est un leurre, oui, c'est un leurre du MEDEF. Je pense que c'est un leurre du MEDEF. Mais bon.
On peut s'attendre à ce qu'ils choisissent un nouveau canasson pour la prochaine élection présidentielle et qu'ils seront au fond du délitement d'Emmanuel Macron. Ouais. Mais voilà ce que je voulais dire.
On va reconstruire quelque chose. C'est que Macron se cache derrière le paravent de l'état de droit. Tu as parlé tout à l'heure d'état policier.
Je vais, vous, je vais expliquer pourquoi.
Bah, vas-y, et puis je reprends.
C'est très simple. À partir du moment où vous avez des violences policières illégitimes que tout un chacun peut constater, il suffit de regarder sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, il faut vérifier les vidéos, mais vous avez le travail absolument incroyable de David Dufresne. Enfin, voilà, qui est un travail extrêmement sérieux. Il y a donc des violences policières illégitimes. Il y a deux solutions. Soit il y a une volonté politique de laisser faire les policiers. Moi, je pense que c'est ça, en fait. Il y a une volonté politique de laisser faire les policiers, de leur lâcher la bride, tout simplement, pour faire peur. Pour moi, il y a absolument cette volonté-là de faire peur, pour empêcher les gens de manifester, pour limiter les manifestations, etc., etc. Et pour moi, c'est ça, quand je dis qu'il y a une dérive policière vers un État policier, c'est que dans un État de droit, personne n'est au-dessus des lois. Et donc, si vous vous comportez mal, que vous soyez Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, avocat, policier, et qu'il est évident, flagrant, que vous avez commis une infraction, vous devez être sanctionné. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez un deux poids, deux mesures. Si on prend simplement l'histoire de M. Benalla et l'histoire de n'importe quel manifestant pris dans une nasse, interpellé, déféré, placé en garde à vue, parfois gardé à vue alors même qu'il n'y a pas d'infraction sur ordre du procureur de la République, eh bien, ce deux poids, deux mesures, il cache une volonté politique, en réalité, de faire peur, entre guillemets, au peuple et de laisser ceux qui sont proches du pouvoir tranquilles. Bien sûr, il y a un juge d'instruction qui a été désigné pour l'affaire Benalla, mais quid du coffre-fort qui a disparu? Quid de ce comportement de ces policiers qui, lorsqu'ils se sont présentés à son domicile, oh, ils n'ont pas pu ouvrir la porte, ils sont repartis, ce qui a laissé le temps à je ne sais qui de récupérer ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Donc, les gens le perçoivent, les citoyens...
Il y a deux poids, deux mesures.
Oui, on n'est même plus sous l'Ancien Régime ou au XIXe siècle. Il y a un degré de connaissance et de savoir des citoyens qui est considérable. Les gens ne sont pas idiots.
Oui, mais justement, on a quelque chose, on a une déconstruction à faire sur cette question de l'idée d'État de droit. Tu parles d'État policier. J'ai vu une tribune de Didier Fassin, qui est quand même professeur au Collège de France, oui. C'est pas rien, qui parle de violence, spécialiste des prisons, et qui parle de violence d'État,
oui,
actuellement.
Oui.
Et par rapport à ça, ce que nous renvoie Macron, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois de mars dernier, il a dit « ne parlez pas de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un État de droit ». Autrement dit, lui, il se réfugie derrière l'idée de l'État de droit, parce que la conception qu'il a de l'État de droit, c'est celle de Hans Kelsen, c'est-à-dire c'est la norme des normes, c'est quelque chose qui est pensé comme un corset. Alors que l'État de droit, tel que tu l'exprimes toi, c'est peut-être l'émanation de ce qui est sorti après la Seconde Guerre mondiale et à partir de 1948, qui vise, et d'ailleurs qui rejoint, puisqu'on parlait de la Grande Révolution française tout à l'heure, qui vise à protéger le citoyen aussi de l'arbitraire et donc des dérives de l'État lui-même au nom d'un certain humanisme. Et il y a donc deux perceptions de l'État de droit. Il y a celle que Macron voudrait nous faire gober, derrière laquelle il se réfugie, qui serait un État de droit carcan. Et puis il y a l'État de droit humaniste, finalement, qui vise à protéger le citoyen à la fois contre les pouvoirs arbitraires qui pourraient lui être imposés.
Oui, mais Caroline, tu n'as pas l'air d'accord.
Pas du tout. Pourquoi? Parce que, en fait, le président Macron pratique la novlangue.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, il utilise les termes d'état de droit pour justifier l'absence d'état de droit en ce qui concerne les violences policières. Je suis désolée, dans un état de droit, justement, il y a la liberté d'expression. Donc déjà, on peut commencer par parler de violences policières. Et on peut d'autant plus en parler lorsque ces violences policières sont documentées. Je n'invente pas des violences policières. C'est documenté de façon très, très étayée par le travail de journalistes qui sont des journalistes de terrain, qui sont extrêmement consciencieux. Et d'ailleurs, toute une série d'autorités en ont été saisies. Et y compris cette représentante de l'ONU a rappelé la France à par rapport à l'usage qui était fait notamment du LBD, etc., etc. Donc, le président Macron, il est dans là, ce que moi j'appelle... D'abord, il se prend pour Dieu. Il considère qu'avant lui, il n'y avait rien et qu'il fait tout. Il crée tout. Il est Dieu. Sauf que non, il n'est absolument pas Dieu en réalité. Et on pourrait caractériser son attitude comme étant l'attitude de quelqu'un qui est dans la délusion. Le réel, la réalité, les gens qui te touchent, etc., ça n'existe pas. Donc, il ne croit que ce qu'il dit, et même s'il se trompe malgré l'accumulation des faits, L'accumulation. Ce n'est pas parce que Emmanuel Macron dit une chose qu'elle est vraie. Ce n'est pas parce qu'on répète mille fois un mensonge qui devient une vérité.
Non, mais par contre, les gens l'entendent et il y a des gens qui continuent d'être convaincus. Donc, quelle est notre tâche? Parce que si on dit ce que tu viens de dire là, tu en es convaincu, j'en suis convaincu et les gens qui sont derrière le poste en sont convaincus.
Oui.
Comment on fait pour dégager celui-là quand même?
Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut convaincre des gens qui eux-mêmes sont dans la délusion. C'est-à-dire que tu leur expliques par A plus B pourquoi tu dis, bon, par exemple, il y a un état policier, pourquoi la réforme des retraites telle qu'elle est prévue va aboutir nécessairement à un appauvrissement de tous les retraités. Et les gens te répondent, ah bon, tu crois? Parce qu'en fait, au fond, il y a des éléments de la réalité qui sont extrêmement angoissants à accepter et qu'il vaut mieux parfois, pour certains, garder les yeux entre guillemets fermés ou garder un voile sur les choses pour pouvoir continuer à vivre. Sinon, c'est insupportable. Voilà. Et donc, il faut inlassablement répéter, expliquer de manière documenté. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Jusqu'à ce que les gens ouvrent les yeux. Mais on n'a pas, on peut pas forcer, on peut pas forcer un âne qui n'a pas soif à boire. C'est un peu ça en fait. Mais n'empêche que toi, tu sais qu'à partir des éléments étayés, ce que tu dis repose sur des faits. Les faits, ça ment pas. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, les faits, ça ment pas. Je sais bien qu'on est arrivé à un moment où, et c'est Trump qui le montre de la manière la plus magistrale, on peut raconter n'importe quoi, on peut fabriquer une vérité alternative, etc., etc. Mais ça, ça rend fou les gens. Mmh. Ça nous rend fou. Et ça, ça va générer colère, révolte.
Oui, mais
ça va nous revenir en boomerang. On va vers le chaos, là.
Ouais.
Et pas parce qu'il y a des manifestations dans la rue, non. Pas parce qu'il y a des manifestations dans la rue.
Mais justement, cette idée-là de faits, bon, alors les faits ne mentent pas, bon. Et on sait très bien qu'ils sont toujours sujets à interprétation, surtout quand on est...
Enfin, quand tu vois un CRS, clairement, faire un croche-patte volontairement à une femme qui est menottée, qui fait rien, bon, sauf si l'image a été truquée...
Bien sûr, je te dis juste qu'il y a un enjeu de pouvoir, là, précisément, à livrer une interprétation et de la réalité qui sera pas nécessairement conforme au réel ou à la nature, mais qui sera conforme à l'intérêt de tous, et donc à l'intérêt général, et donc etc. C'est-à-dire qu'il y a une bataille culturelle à mener. C'est toujours l'histoire de l'hégémonie culturelle mais comment, par quel biais ça passe? Et donc la question, à nouveau, on revient à la question de départ, qui était la question du droit. Est-ce que précisément le droit tel qu'il est utilisé, on va dire, dans les cadres institutionnels de la justice telle qu'elle est, peut devenir ce lieu où justement l'interprétation favorable à l'intérêt général peut gagner, entre guillemets. Est-ce que ce lieu est encore susceptible d'être investi dans ce but-là, c'est-à-dire pour faire gagner l'intérêt du faible, l'intérêt... Tu vois ce que je veux dire? Tous ces idéaux qui sont les idéaux de la justice et qui cadrent bien avec la question ou la vision qu'on a de l'intérêt général, en particulier constituant, mais voilà. Est-ce que c'est encore jouable?
Je vais te décevoir parce que je vais te dire qu'en fait, je crois que c'est pas là où ça se passe.
Ouais.
C'est-à-dire que pour moi, le droit est un outil qui est marginal. Le droit, c'est ce qui arrive après les choix qui ont été effectués.
D'accord.
Le droit,
c'en est le reflet.
C'est le résultat de choix qui sont antérieures. Et donc, là où en réalité... Bien sûr que ponctuellement, on peut utiliser le droit pour telle chose, etc. Mais regarde, prenons simplement le référendum sur la privatisation d'ADP. Voilà un bel outil. Bah, on a dépassé les 1 million de votants, mais on en a besoin de 4. Donc, je veux dire par là que les possibilités de succès avec le droit qui existe tel qu'il existe aujourd'hui me paraissent marginales. Voilà. Et que donc, en réalité, là où il faut investir, d'abord, c'est vraiment, entre guillemets, le champ idéologique, ce que la droite et l'extrême droite n'ont pas cessé de faire depuis maintenant 30 ans. C'est pour ça qu'on a des journaux comme Valeurs Actuelles, comme Causeur, qu'on a des chaînes comme CNews, où vous avez un Éric Zemmour qui a table ouverte. Vous avez le Figaro qui ouvre de plus en plus ses pages à une droite extrême. Donc, c'est ce champ idéologique que la gauche, au sens large, incluant évidemment l'écologie, doit réinvestir. Donc c'est effectivement...
Mais est-ce qu'on peut juste réinvestir ce champ-là et donc mener correctement la bataille culturelle, comme on le disait?
Il faut la mener.
Bien sûr. Sans pour autant faire correspondre le cadre institutionnel, etc. Est-ce qu'on peut se passer de cette tâche, de cette responsabilité-là? Non, ou est-ce qu'il faut faire marcher les deux
non,
ensemble?
Non, non, il faudrait impérativement que le cadre institutionnel soit modifié, évolue. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, c'est comme s'il y avait deux jambes. Il y a à la fois la nécessité de modifier les institutions, donc passer à une 6e République dont il faut définir le contenu. Voilà, et là, c'est table ouverte, hein, il faut vraiment regarder
c'est
comment.
Ça, c'est ce qu'on
voilà, il faut vraiment le faire. Et, mais ce n'est pas suffisant. Les institutions garantissent un certain type de fonctionnement, mais il est nécessaire aussi que les choix de politique économique soient différents. S'ils demeurent les mêmes, on va produire les mêmes choses en réalité, parce qu'on aura toujours, entre guillemets, des élites qui seront toujours nourries au même discours et qui croiront toujours à la question d'un budget, il n'y a pas de déficit, et blablabli, on fait de l'austérité au détriment des petits, et il ne s'agit pas d'augmenter les cotisations sociales pour les patrons, mais en revanche, il s'agit de diminuer les pensions des retraités. C'est ça le choix idéologique qui vient d'être fait avec la réforme des retraites, par exemple. Mais c'est ça qu'il faut pouvoir changer. Donc ça veut dire qu'il faut que ceux qui nous gouvernent, que ce soit ceux qui sont élus, ceux qui sont dans l'exécutif, ceux qui sont dans les cabinets ministériels, qui sont issus de l'ENA et des grandes écoles, soient nourris d'autre chose que le discours néolibéral dont ils sont nourris depuis plus de 30 ans. Et ça, c'est une bataille culturelle immense, en réalité, qui ne sera, à mon avis, possible que lorsque nous aurons touché le fond. Et que ce n'est que lorsque nous aurons touché le fond que nous pourrons peut-être remonter. Je vois pas comment ça peut, c'est possible autrement en réalité. Ça veut pas dire
c'est
peut-être pas
une autre manière de parler de la violence, mais je ne sais
je
pas.
Je sais pas parce que bon, moi,
toucher le fond pour rebondir.
Non, toucher le fond, c'est politiquement aller au pire.
Oui, mais ça, on sait à quel point c'est toujours dangereux et à quel point.
Mais c'est évident.
Et c'est pour ça que peut-être qu'une alternative aujourd'hui dans la construction d'une nouvelle hégémonie culturelle, elle réside en partie par le fait bien sûr d'avoir une autre idée, une autre vision d'une société émancipatrice et comment on refait corps politique tous ensemble. Il y a cette dimension de comment on se recrée tous ensemble et comment on reprend en main notre souveraineté. Moi, j'y reviens parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait les uns les autres en tant que militants, en tant que personnes engagées, en tant que citoyens, depuis des années et des décennies. Voilà. Et malgré tout, on voit que d'ersatz en ersatz, on est arrivé à Macron. C'est d'ailleurs la quintessence du modèle néolibéral. Donc est-ce que peut-être qu'il ne faut pas qu'on trouve un autre levier? Et aujourd'hui, il me semble que ce qui est au plus profond des gens, c'est cette idée de dépossession de la capacité de décision. Et est-ce que peut-être qu'aujourd'hui, en s'appuyant plus sur ce levier-là, en faisant bien prendre conscience aux gens qui sont des victimes non consentantes de cette politique sur laquelle ils n'ont plus un mot à dire, on pourrait peut-être reprendre un petit peu la main et faire reprendre la main aux gens. C'est la question de la souveraineté populaire qui, à mon sens, moi, je ne sais pas si c'est l'enjeu central, mais en tout cas, je pense que c'est un levier vraiment dont on doit se saisir. Et sur la question de la justice, on a une vraie question par rapport à ça. J'évoquais tout à l'heure 1789, et j'évoquais le fait que les inégalités face à la justice étaient parmi les premières à citer dans les cahiers de doléances. Mais aujourd'hui, les gens ressentent de profondes inégalités par rapport à la justice. Tu l'as dit par rapport au cas Macron, les Benalla, toute l'histoire et le reste, mais ils le ressentent aussi parce qu'ils voient bien qu'il y a une justice de classe et où les nantis, les puissants et les plus riches, pour être tout à fait clair, sont celles et ceux qui passent le plus facilement dans les mailles du filet. Il y a un très bon article dans le Monde diplomatique du mois de février, voilà, de Vincent Cizère, qui évoque cette question et qui explique comment le consentement à la justice, le consentement d'une manière générale, s'affaiblit dès lors qu'on voit bien que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et par rapport à la justice, c'est bien le cas.
Oui, et que le principe, qui est un principe révolutionnaire d'ailleurs, qui prend du plomb dans l'aile, c'est la question de la sûreté. C'est qu'en fait, la sûreté, il donne cette définition, c'est...
lutter contre l'arbitraire de l'État.
Oui, et la protection, l'égale protection de la loi. C'est-à-dire que c'est... et à partir du moment où on revient là-dessus, c'est-à-dire que précisément, il n'y a plus... on n'est plus égaux devant la justice et donc devant la loi, à ce moment-là, le principe de sûreté tombe. Et à ce moment-là, tout le monde est dans l'insûreté. Et ça, c'est une catastrophe du point de vue du consentement, y compris à l'autorité de la loi. Et donc, pour le coup, ce qui faisait lien, ce qui faisait société, c'était aussi la loi républicaine. Hein, enfin, en tout cas, c'est le principe.
La loi, c'est aujourd'hui. C'est l'émanation de la volonté générale, donc forcément.
Et donc, si on ne peut plus consentir à ça, il n'y a plus rien qui nous oblige les uns par rapport aux autres.
Et c'est là que j'aimerais revenir sur ce que disait François tout à l'heure à propos de l'état de droit.
Ouais.
En fait, je pense qu'Emmanuel Macron, ce qu'il ne saisit pas, c'est qu'il a inversé complètement ce qu'est l'état et ce qu'est l'état de droit. En fait, on est dans un droit de l'état aujourd'hui. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron ne comprend pas que l'état, c'est l'appareil qui régit la loi et qui régit la volonté générale et qui donc est un appareil conceptuel qui n'existe pas. Quand Macron nous dit qu'on est dans un état de droit, il dit qu'on est dans un droit de l'État parce que pour lui, c'est le droit qui émane de l'État. Alors que c'est complètement l'inverse. Et aujourd'hui, le grand enjeu de notre société, et le grand enjeu du processus constituant, c'est de réussir à inverser cette norme-là pour revenir à un réel état de droit où les gens sont égaux devant la justice parce que la justice, c'est eux. Et parce que la justice, parce que l'État, c'est l'émanation de leur volonté générale. Et quand tu disais tout à l'heure que le droit était un outil marginal, alors certes, si on entend le droit tel que l'entend Macron, oui, c'est un outil marginal. Si on entend le droit tel que l'émanation de la volonté générale, alors non, c'est l'outil fondamental. Et le droit, c'est la loi, c'est les gens, c'est la société et le corps constitué qui est national. Et je pense qu'on a un grand intérêt à revenir sur cette conception de l'intérêt général et de la souveraineté, puisque il n'y a que comme ça qu'on constituera une nouvelle société et qu'on pourra changer les cadres et les cadres idéologiques et mener la bataille de l'hégémonie culturelle parce qu'elle ne se mènera pas tant que le droit ne répondra pas aux attentes des citoyens.
Ouais, donc là, ce que tu poses, Sacha, comme principe, c'est qu'il faut qu'il y ait une rencontre entre... En tout cas, qu'il n'y ait plus de décalage entre les auteurs présumés de la loi, c'est-à-dire le peuple, et les destinataires de la loi, qui sont aussi le peuple. Or, aujourd'hui, il y aurait comme un décalage. C'est-à-dire qu'en fait, les auteurs ne sont plus ceux que l'on présume, c'est-à-dire c'est plus le peuple qui serait... En tout cas, on le perçoit de plus en plus, où les gens ne se sentent pas les auteurs. Ils disent mais moi, je n'ai pas voulu ça. Donc, je ne suis pas... Je n'ai pas donné mon consentement à ça. Et donc là, pour le coup, on est dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est du désordre. Il n'y a plus d'ordre au sens d'ordre public ou d'ordre républicain, c'est le désordre. Est-ce qu'il n'y a plus de correspondance entre les auteurs et les destinataires? Et ça, pour le coup, c'est normalement, on va dire, la logique démocratique.
Moi, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je parlais de la place du Conseil d'État, c'est-à-dire la représentation nationale, c'est la représentation de la nation en tant que corps politique constitué, et finalement... On n'attend presque plus rien d'elle, parce que tellement on sait qu'elle est dévitalisée et qu'il ne peut rien s'y passer avec cette réforme des retraites, on attend le passage au Parlement comme un moment où peut-être il y aura une guérilla parlementaire, certes, mais peu importe, au final, on connaît l'issue et on en est réduit à faire de l'organe administratif qui est le Conseil d'État, finalement, celui qui va le mieux pouvoir s'opposer à cette réforme. C'est un vrai problème.
C'est un peu comme le coup du Sénat par rapport à l'affaire Benalla, tu vois.
C'est ça.
On attendait, mais c'était le dernier dont on aurait pu penser qu'il aurait pu jouer le rôle de rempart. Or là...
Et donc la disparition effective, d'une certaine façon, du Parlement et de l'Assemblée nationale donne à voir la monarchie républicaine dans toute sa splendeur.
Ouais.
Son horreur, plutôt.
Oui, effectivement, moi je suis frappée de ça aussi, cette espèce de sentiment un peu d'égarement. C'est-à-dire on ne sait plus exactement, tu disais très bien, il n'y a plus de contre-pouvoir. Et pire, les contre-pouvoirs ne sont pas là où on les attend. Alors, c'est peut-être aussi quelque chose de plus optimiste. Finalement, on peut voir les choses de manière un peu plus optimiste en disant, mais finalement...
Il reste encore un ou deux garde-fous.
Il y a des garde-fous. Là où ils y sont, mais ils sont ténus. Mais peut-être que justement, on est dans ce moment où les derniers vont peut-être s'éteindre, mais d'autres vont renaître de manière imprévisible, là où on ne les attend pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, le coup du Conseil d'État pose quand même les choses d'une manière qu'on n'avait pas imaginée. De la même manière que les inventions populaire, tu l'as dit aussi, en termes d'expression, des revendications, c'est extraordinairement imaginatif ce qui se produit. Et on ne les attendait pas là.
Non, c'est sûr.
Et donc finalement, est-ce que ce n'est pas aussi le signal de ce qu'il va falloir faire en dehors des clous? C'est-à-dire qu'on peut-être que la solution, elle est là. Elle n'est pas dans « on va faire la grève légale seulement ». Mais on va faire peut-être quelque chose de plus à côté des clous.
Mais il faut que ces manifestations, quelles qu'elles soient en dehors des clous ou pas en dehors des clous, il faut qu'elles puissent, d'une certaine façon être canalisées pour instaurer malgré tout un rapport de force, pour pouvoir aboutir à quelque chose.
Oui, sinon, mais canalisées par quoi?
Je n'en sais rien, ça, je ne peux pas. Mais c'est-à-dire qu'une des problématiques des Gilets jaunes, qui est vraiment un mouvement extraordinaire, en fait, réellement, qu'il fallait écouter, qu'il faut continuer à écouter, c'est que quels débouchés politiques et institutionnels. Ouais. C'est-à-dire que c'est bien d'être partout dans la rue, etc. Mais ensuite, si on n'arrive pas à, comment dire, à conquérir le pouvoir, ou en tout cas le pouvoir tel qu'il est aujourd'hui dans ces institutions, bah ça, on voit bien que ça n'aboutit pas. Donc c'est bien la question de la... En réalité, c'est la question de comment on conquiert le pouvoir aujourd'hui. Parce que sinon, ce qui est dans la marge... Ne le permet pas. On se trouvera toujours confronté à un État qui utilisera tous les moyens pour se maintenir en place, très clairement. Donc c'est ça le hiatus, dans le, enfin le, la contradiction dans laquelle on peut se trouver. Et quand moi je dis qu'effectivement les lois au sens de corpus qui encadrent et quadrillent nos relations, parce que la loi c'est fait pour fluidifier les relations entre les citoyens de plein de manières différentes, je dis que ça n'est qu'un outil, etc. J'entends ce que tu dis quand tu dis qu'elle est fondatrice parce qu'elle est l'émanation du peuple, mais en attendant le peuple il a voté pour des représentants, finalement des représentants dont on considère qu'ils ne nous représentent pas beaucoup, ce qui est vrai par ailleurs, mais bon... il faut arriver aux manettes pour qu'il y ait une adéquation entre les citoyens, une majorité de citoyens et non pas 20% ou 18%, et ses représentants, au minimum. Enfin, il faut bien qu'il y ait un changement institutionnel.
Je sens que vous brûlez d'intervenir. Alors, Sacha d'abord, après François.
Ouais, je veux juste revenir rapidement sur les Gilets jaunes, c'était très intéressant ce que tu disais. Et je pense qu'en fait, la conquête du pouvoir, elle se fait en deux étapes. Parce que la première étape, c'est de refaire société. Et pour ça, on ne peut pas le faire dans le cadre institutionnel qui est le nôtre actuellement. Et effectivement, le militant politique que je suis est déçu de voir à quel point on n'arrive pas, avec les leviers classiques, institutionnels, les manifestations, les grèves, on n'arrive pas à gratter quelque chose. Par contre, l'être humain que je suis et le citoyen que je suis sort avec un énorme élan d'optimisme du mouvement des Gilets jaunes. Parce que c'est un moment où la discipline néolibérale qui a voulu diviser les êtres humains et qui a voulu diviser l'entièreté de la société a permis une réagrégation populaire et a juste permis aux gens d'exister à nouveau. Et il y a un article, c'est la Fondation Copernic d'ailleurs qui a édité ce manuel, un dossier de sciences sociales que je conseille à tous. Il y a un article de Willy Pelletier, je crois, à la fin, où il parle des Gilets jaunes. Et effectivement, les gens réexistent. Ils se parlent, ils discutent, ils créent du lien populaire et je pense que c'est la première étape. Alors certes, c'est sur le temps long. Certes, on aimerait, nous, militants politiques, qu'en 2022, on réussisse à reprendre le pouvoir et à renverser la table. Peut-être que ce sera possible. Il faudrait qu'il y ait une émulsion populaire à un moment d'ici là et je crois qu'il y aura un nouveau sursaut avant la campagne présidentielle.
Au moins un.
Au moins un.
Mais
je pense quand même qu'il faut rajouter un petit peu d'optimisme dans tout ça. Et les Gilets jaunes, le mouvement des retraites a permis aux gens d'être une société. Et ça, c'est notre plus grande force pour l'avenir. Et on verra quelle tournure ça prend, mais ça en prendrait une certainement.
Je te rejoins là-dessus, mais je me méfie beaucoup avec les institutions qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Du fait de vouloir proposer et essayer de trouver rapidement un débouché institutionnel. Je le dis parce que toutes celles et tous ceux qui ont essayé de ramener le mouvement Gilets jaunes dans le champ institutionnel, d'une certaine façon, visaient à remettre le couvercle sur la cocotte. Et c'était un petit peu la même chose avec le mouvement populaire sur les retraites. Toutes celles et tous ceux qui voulaient se précipiter au Parlement pour des motions de censure ou autres, laissaient pas aller le flot populaire tel qu'il continuait à se déverser. Et je crois que la force aujourd'hui, elle réside dans le champ hors institutionnel, justement par cette capacité à refaire progresser progressivement peuple tel que tu l'évoquais. Et pour essayer de répondre à ta question, moi je suis de celles et ceux qui se disent quand même que peut-être que la dimension insurrectionnelle qui existe a quand même quelques vertus et il faut voir jusqu'où elle peut aller pour être efficace. Je le dis parce que dans le mouvement des Gilets jaunes, les actes 2 et 3 qui ont recelé d'une certaine violence ont permis d'obtenir quelque chose, et c'est suite à ça que le 10 décembre 2019, il y a eu une allocution de Macron qui a lâché quelque chose. Insuffisante, rien sur le plan démocratique, mais il a lâché, dans le champ économique et social, quelques bribes. De la même manière, il y a eu une manifestation extrêmement violente et très symbolique qui a mis face à face, il y a quelques jours, les CRS et les sapeurs-pompiers. Autrement dit, deux catégories qui, normalement, agissent main dans la main dans notre intérêt du quotidien, et qui s'est terminé avec des actes de violence physique entre les uns et les autres. Et suite à ça, le gouvernement a été obligé de lâcher le soir même, alors même que les sapeurs-pompiers étaient mobilisés depuis des mois et des mois. Donc d'une certaine façon, la dimension insurrectionnelle aujourd'hui est la dernière chose qui est encore entendable par ce pouvoir, tellement il est protégé derrière le cadre des institutions, et c'est la dernière qui l'oblige en partie à lui faire lâcher certaines petites choses. Voilà, je ne peux pas dire que je réclame de la violence ou du reste, mais je constate Par contre, que c'est cette dimension insurrectionnelle, seule dans l'état de blocage démocratique dans lequel nous sommes rendus aujourd'hui, qui permet d'obtenir des choses. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais on ne peut pas faire comme si ce n'était pas le cas.
Bien sûr. Et c'est comme si le seul langage qui est encore court dans le rapport avec les institutions telles qu'elles sont occupées aujourd'hui, bah, c'est une forme de langage de violence, parce que bah, l'insurrection, c'est forcément de la violence. Et donc, là, on se trouve quand même acculé à quelque chose de très dur. Et finalement, quand tu disais, Caroline, qu'il fallait toucher le fond, mais est-ce que toucher le fond, c'est pas aussi reconnaître que la situation d'aujourd'hui est nécessairement insurrectionnelle, qu'on ne peut pas l'analyser comme autre chose que ça?
Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on peut constater, c'est que ce gouvernement et ce président ne comprennent que le rapport de force, et un rapport de force globalement violent, très clairement. On peut donc dire qu'ils ont une responsabilité dans la montée de la violence, puisqu'ils n'entendent rien en dehors de, à un moment donné, il y a une violence qui fait paf. Mais je ne crois pas que ce soit une bonne... En tout cas, pour moi, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Hein. Je suis une femme qui a pour seul outil, pour seule arme, la parole. Je n'ai que ça, et je n'aime que ça, et je ne... Voilà. Mais je le constate, en effet. Le fond, je ne le voyais pas forcément dans ce cadre-là. Je le voyais d'une façon peut-être dans le cadre du jeu, entre guillemets, démocratique des élections. Parce que si le président Macron pense qu'il va être à nouveau élu de la même manière qu'il a été élu en 2017... Je pense qu'il se méprend profondément sur ce qui se passe actuellement en France.
Bien. On va s'arrêter là-dessus. Moi, je vais évidemment remercier, des constituants, Maître Mekkari, d'avoir donné cet éclairage quand même qui était important pour qu'on comprenne aussi que, bien, finalement, le droit, c'est aussi un fait social qui nous permet de comprendre ce qui se passe et y compris d'envisager des moyens d'action. C'est aussi l'occasion de remercier mes compères qui ont à nouveau tenu la tranchée des constituants. Merci beaucoup. Et enfin, merci au café dans lequel on est, hein, parce que on est au Saint-Germain, encore dans des beaux quartiers, mais après tout, je vois pas pourquoi le peuple n'y aurait pas sa place. Donc nous sommes ravis.
La révolution est partie du Procure.
Et voilà, du Procure qui est pas très loin. C'est vrai, qui est pas très loin. Donc merci beaucoup.
Peut-être pour prolonger la discussion.
Ah bah tiens, allez, vas-y, fais un petit coup de
livre, le temps constituant, dans lequel on a été quelques-uns à écrire avec Charlotte, avec François Boulot et avec Hélène Franco. Hélène, notamment,
qui est magistrate
et qui évoque les questions de justice, notamment là-dedans. Donc ça peut être une manière de poursuivre notre échange.
Absolument. Et si on ne le poursuit pas en lisant, mais on recommande fortement, on peut aussi le poursuivre dans la rue, aux côtés des soignants qui se réunissent encore, vous voyez bien l'euphémisme, mais qui descendent dans la rue à nouveau le 14 février prochain pour se faire entendre, car... Évidemment, il y a les retraites, mais il y a aussi, de toute façon, les conditions de travail au quotidien qui sont devenues insupportables dans tous les services publics et en particulier dans celui de la santé. Donc, à bientôt. Toujours en lutte. Merci beaucoup.